Frères et sœurs, est-ce que vous avez déjà bénéficié de quelqu'un qui vous avait donné une solution astucieuse pour gagner du temps et économiser des efforts? Est-ce que vous êtes déjà tombé sur quelqu'un qui vous a permis par une solution astucieuse de gagner du temps et de vous éviter tout un tas d'efforts? C'est le sacristain qui vous apprend que pour nettoyer telle coupelle encrassée, pas besoin de frotter jusqu'à épuisement. La plonger toute une nuit dans du Coca-Cola lui redonnera son éclat. Ça peut servir. C'est le philosophe Pascal, jeune, qui trouve une façon élégante pour mettre au point la formule de calcul de la somme de n nombres entiers. Il l'écrit une fois dans un sens 1 plus 2 plus 3 plus etc. plus n égale ce qu'on cherche, x. Et puis en dessous, il met la même somme, mais à l'envers. N plus n moins 1 plus n moins 2 etc. plus 1 égale x. Puis il additionne les deux lignes et il se rend compte que en chaque fois, on additionne en fait n plus 1, n fois n plus 1. Et donc il trouve comme ça le résultat sans beaucoup d'efforts. On dit c'est extraordinaire de trouver quelque chose comme ça. C'est une grande satisfaction généralement. Alors quand on a connu cette satisfaction, ça nous amène à nous poser une question. La solution que le diable propose n'est-elle pas une solution astucieuse? La solution que le diable propose à Jésus, ne sont-elles pas des solutions astucieuses, pleines de compassion finalement devant la dureté de la tâche de l'homme? N'y aurait-il pas un autre chemin, plus facile, plus rapide, qui ne demanderait pas le don de soi? Un chemin que Dieu nous aurait caché finalement. Rappelez-vous ce que dit le serpent dans la première lecture, « Pas du tout, vous ne mourrez pas !» Alors vous vous doutez que cette compassion du tentateur est une fausse compassion. Cependant, il avait réussi à faire se délecter nos parents au jardin de la Genèse. Elle s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable cet arbre puisqu'il donnait l'intelligence. Ils se sont délectés jusqu'au point de donner leur consentement. Eh bien, je voudrais réfléchir sur ce point avec vous. Je voudrais débusquer avec vous en quoi cette pseudo-compassion qui peut sembler si attirante s'oppose en fait à l'objectif de notre carême, à aimer comme le Christ aime. Parce que nous aussi, nous faisons l'expérience de cette attirance. La suggestion de la tentation nous met l'eau à la bouche. Nous met parfois des étoiles dans les yeux. Essayons de débusquer en quoi cette pseudo-compassion s'oppose à notre objectif de carême, aimer comme le Christ aime, puisque telle est la porte de la vie éternelle. Les pierres qui deviendraient du pain, en quoi cela peut-il être un acte de compassion? C'est tout simple, tu as faim, tu es affaibli, tu as bien le droit de manger, et en plus, n'en as-tu pas le pouvoir? Le piège est redoutable, parce que ce serait une utilisation de pouvoir centrée seulement sur lui, et non plus au service de la vie de ceux qui lui sont confiés. Quand Dieu donne une puissance, c'est pour que cette puissance soit mise au service de la vie de ceux qui nous sont confiés. On risquerait sinon, si on la tourne vers nous, d'entrer dans une logique où notre sensation, ici la sensation de faim, devrait primer sur tout le reste. Or, l'homme ne vit pas seulement de pain. Quand l'homme devient l'esclave de sa sensation, il en oublie de se nourrir de la parole de Dieu. Or, nous pouvons noter qu'au passage, le tentateur s'attaque aussi à l'identité de la personne. Si tu es fils de Dieu, y a-t-il un doute sur son identité ? Il y a une attaque sur l'intelligence que l'on a de soi-même, une tentative pour fragiliser la compréhension que l'on a de son être. Et les conséquences de cette fragilisation peuvent être la perte de la compréhension que l'homme est corps et âme, que l'humanité est double et distincte, homme et femme, que nous sommes des êtres nés de la relation et faits pour la relation, relation avec Dieu et avec le prochain. Dieu nous avait donné une identité claire, homme et femme, il les créa. Il les créa à son image, pour qu'ils soient à sa ressemblance. Une identité était claire qui devait seulement s'affiner. Si je ne suis plus nourri de la parole de Dieu, tant je suis l'esclave de mes sensations, je n'ai plus aucune chance d'accomplir la ressemblance. Parce que c'est de Dieu que j'apprends l'amour comme je vous ai aimé. Cette pseudo-solution pour satisfaire cette sensation de faim insupportable, en tournant notre puissance seulement vers nous-mêmes, nous fait perdre le sens des dons donnés et nous ferme à cette ouverture, à cet apprentissage de l'amour en contemplant le Seigneur parce que nous avons conscience de notre identité. Sauter du pinacle du temple, du haut du temple, en quoi y a-t-il un semblant de compassion? Là aussi c'est tout simple, avant une mission dangereuse, n'est-il pas légitime de vérifier son matériel? Pour être sûr, pour avancer l'esprit tranquille, vous allez sauter en parachute, n'est-il pas rationnel de vérifier que le modèle de parachute que vous avez s'ouvre bien? N'est-il pas légitime alors de vérifier le secours du Père? Jette-toi en bas. Vérifie la présence angélique, vérifie l'attention du Père à ton égard. Mais en fait, cela consisterait à mettre inutilement à l'épreuve la confiance. Tandis que précédemment, le diable jetait un trouble sur l'intelligence, ici il jette un trouble sur la mémoire. Jésus vient du Jourdain. Il vient d'être baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, l'Esprit, comme une colombe, est descendu sur lui, et il a entendu la voix du Père. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma bienveillance. » Il a eu le signe de la bienveillance. Le Père veille bien sur lui, le Père lui veut du bien. Or, en mettant à l'épreuve sans cesse, je n'apprends pas à vivre la confiance. Or, il n'y aura pas d'amour sans confiance. L'amour ne peut grandir que sur une confiance qui s'est bâtie, qui s'est construite, et qui n'est pas sans cesse mise en doute. Celui qui se lance dans la mise à l'épreuve incessante se constituera un cœur inquiet et jaloux, qui a sans cesse l'exigence d'une nouvelle preuve. Au contraire, on verra que jusque sur la croix, le Christ vivra la confiance. Père, en tes mains, je remets mon esprit. Aimer comme le Christ implique une confiance qui a grandi avec la mémoire des signes qui furent donnés. Et ce n'est pas pour rien que l'Écriture invite si souvent le peuple à se souvenir des œuvres que le Seigneur a faites à son endroit. Remarquez au passage que si l'on n'est pas nourri des Écritures, on peut être trompé par ceux qui les manipulent, et le diable ne s'en prive pas. Les phénomènes d'emprise que l'on peut voir, que l'on peut malheureusement constater, sont fondés sur une manipulation de l'Écriture. Nous sommes appelés à être familiers de l'Écriture pour être armés contre leur détournement. Se prosterner devant lui, ne serait-ce pas une solution de compassion, là encore? Ce serait plus rapide, moins onéreux, pour posséder tous les royaumes de la terre, pour forcer leur allégeance, sans toute la peine pour gagner leur consentement. Oui, mais c'est une bonne solution, ça irait beaucoup plus vite, non? Mais il ne s'agit pas seulement de posséder les royaumes, il s'agit de conduire ceux qui habitent dans ces royaumes, de les conduire à Dieu, en Dieu, à la communion avec Dieu. Or, si l'on se prosterne devant le diable, on ne conduit plus à Dieu, on ne conduit plus au Dieu Trinité et relation. Le moyen que le diable propose fait perdre la fin recherchée. Aimer comme le Christ aime pour participer à la vie de Dieu. Obtenir l'allégeance de tous les royaumes de la terre en voulant faire l'économie de l'obtention du consentement de chacun, c'est en fait mettre fin à la possibilité d'une alliance véritable, une alliance que l'on bâtit à deux. Il y a un mépris aussi du temps qui fait partie de la vie humaine, un mépris de la volonté, une volonté que l'on écrase. C'est un peu la logique du filtre d'amour. Parfois, ça nous tenterait bien, ça. On aimerait être aimé par telle personne, et elle ne nous le rend pas comme on aimerait ça. Si on avait un petit filtre, là, qu'on pouvait lui mettre dans son verre, et tout d'un coup, ah, ça y est, elle est attirée par nous. Sauf que ça, c'est pas de l'amour. L'amour a ce grand mystère d'une liberté qui n'est pas déterminée et que lorsque la personne me dit « je t'aime », ce n'était pas obligatoire. Il y a une gratuité qui fait sa force et sa beauté. Et si ma volonté n'est plus là, ce n'est plus de l'amour. C'est une programmation informatique peut-être, mais ce n'est plus de l'amour. Ils ne m'aimeraient pas puisque ce serait sans l'engagement de leur volonté libre. Arrière Satan, dit alors Jésus. Satan, c'est bien l'ennemi, l'adversaire, l'ennemi de la nature humaine, comme dit saint Ignace de Loyola. Le diable, c'est l'obstacle jeté sur le chemin pour couper. Et Jésus le dénonce. Bien loin d'être un chemin bis, un raccourci, une bonne idée astucieuse, c'est un piège qui nous fait perdre le chemin de la communion d'amour avec Dieu, chemin où l'on apprend avec le temps à aimer comme le Christ aime. Ainsi, au début de ce carême, cet évangile nous apprend à être sur nos gardes. Nous ne ferons pas l'économie du combat spirituel. Et il est bon de l'entendre. Alors, on peut dire, c'est pas très réjouissant de savoir qu'on va devoir mener un combat spirituel. Peut-être, mais ce sera le cas. Ne soyons pas naïfs. Et il est bon de l'entendre pour nous, mais aussi peut-être en particulier pour les catéchumènes. Vous savez qu'il y a plus de 300 catéchumènes qui ont reçu l'appel décisif hier à Saint-Sulpice de la part de notre archevêque. Nous avons deux catéchumènes dans notre assemblée, Emmanuel et Marine, qui seront baptisés à Pâques. Et c'est peut-être pour eux très important, encore plus important, d'entendre la réalité de ce combat spirituel. Parce qu'il y en a bien un, le tentateur, qui ne veut pas qu'il s'approche du mystère du Christ de plus près. Et c'est vrai que suivre le Christ, c'est exigeant. Jean-Paul II aimait répéter cette phrase, « Le Christ est votre ami, mais c'est un ami exigeant. » Mais son exigence n'est pas arbitraire. Son exigence est liée à la réalité de l'amour lui-même, des lois de l'amour, du fonctionnement de l'amour. Un amour qui nécessite une confiance, qui nécessite du temps, qui nécessite l'engagement de notre volonté libre. Mais si cet évangile nous manifeste la nécessité du combat spirituel, il nous manifeste aussi la victoire du Christ. Par le Christ, avec lui et en lui, nous avons la victoire. C'est vrai, sans lui, nous serons joués par les ruses du tentateur. Mais face au Christ, le diable est un perdant. Il n'y a pas une interrogation, puis-je suivre le Christ, ce chemin existe-t-il pour moi? Oui, ce chemin existe, parce que Jésus l'a tracé dans sa propre chair, dans sa propre vie, et ce chemin est pour nous, pour chacun d'entre nous. Alors, peut-être une idée pour nous aider à nous familiariser à cette contemplation de Jésus. Pourquoi le vendredi ne pas vivre un moment de jeûne? Alors on me dirait, mais il faut bien qu'on travaille, et si on veut avoir de l'attention, il faut bien peut-être avoir quelque chose dans le ventre. On peut faire un repas avec un pain complet, prenons ce dont nous avons besoin, quelque chose qui tienne au ventre, c'est vrai, un pain complet avec de l'eau. Ça prend pas forcément beaucoup de temps, et le temps que l'on dégage nous laisserait l'opportunité, par exemple, de lire l'Évangile selon saint Matthieu, de nous familiariser avec ce qui est révélé de Jésus dans l'Évangile de saint Matthieu. Pourquoi ne pas vivre ce moment de jeûne pour nous familiariser avec le Christ, le contempler, apprendre lui comme il aime? Que notre contemplation de ta vie, Seigneur Jésus, nous permette d'écarter les suggestions du tentateur sans délai, pour ne pas entrer dans la délectation qui avait subjugué Adam et Ève et entraîné leur consentement. Que nous purifions notre intelligence, notre mémoire et notre volonté pour apprendre à aimer comme tu aimes. Amen.